Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal. Babel Pongo Massimango à la présentation.
Nous serons au Maniema. Son vice-gouverneur a été déchu samedi par l'Assemblée provinciale. Les explications de Corneille Kati Samba n'ont pas convaincu les députés provinciaux qui lui reprochent un refus de présenter le nouvel édit budgétaire et un détournement de fonds. Corneille Kati Samba promet de saisir la justice. Les activités de lutte anti-érosive amenées en 2026 dans la ville de Kananga au Kasaï Central sont déjà planifiées. C'est à l'issue de la 4e session du comité de pilotage provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga tenu jeudi. Avec Ndeye Kadilo, porte-parole de la MONUSCO, notre invité, il sera question de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient de prolonger pour un an le mandat de la mission onusienne. Madame, Monsieur, bonjour. Ce journal part du Maniema. Le vice-gouverneur Corneille Katisama Makobouli a été déchu de ses fonctions samedi dernier. Tout est parti d'une motion d'interpellation des députés provinciaux. Il lui reproche un refus de présenter les budgétaires 2026. En dehors de cela, il y a aussi des révélations sur un présumé détournement de fonds alloués à la province. Les moyens de défense du vice-gouverneur n'ont pas convaincu l'Assemblée, ce qui fait que la motion d'interpellation s'est transformée en motion de défiance. Résultat du vote, sur 22 députés présents, 18 ont voté pour, 2 contre, 1 s'est abstenu, on compte aussi un bulletin nul. Ainsi, Corneille Katisama n'est plus vice-gouverneur du Maniema, mais l'intéressé compte ne pas en rester là. Florence Kizalunga.
Katisamba Makobouli, vice-gouverneur de Chi, s'est dit déçu de la décision de député. Il promet de saisir la justice.
C'est une déception car ces gens n'ont pas respecté les textes. Quelqu'un qui a détourné autant de millions, on lui protège. Je vais saisir la justice parce qu'ils vont toujours de violation en violation. Ils n'ont même pas respecté les délais. Quand on formule une motion de défiance à quelqu'un, on lui donne aussi le temps de se justifier. Comme eux, ils ont bousillé ensemble cet argent avec Moussa Kabwankubi, alors ils ont fait leur scénario. Je vais saisir la justice.
Pour l'initiateur de la motion, Ngongo Kitenge, il ne s'agit pas de l'acharnement. C'est l'intérêt de la province qui passe avant tout.
Ce n'est pas de l'acharnement, c'est plutôt sauver la province. À Kinshasa, on demande toujours la stabilisation des institutions, alors que le gouvernement s'était déjà manipulé par certains pour déstabiliser la province, avec des ambitions de mesurer, de diriger la province comme intérimaire et échapper au contrôle de l'Assemblée. Et nous avons été vigilants, nous avons dit que non, entre la peste et le choléra, il faut choisir le moindre mal. Le travail va continuer, ça ne va pas seulement se limiter au vice-gouverneur, il y a des commissions qui sont mises en place. On continue le travail et nous allons mettre hors d'état de nuire tous ceux qui travaillent contre les intérêts de cette province.
Le vice-gouverneur est déchu pendant que le gouverneur du Maniema est à Kinshasa pour une mission officielle. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Nous quittons Kindu pour le territoire de Djougou en Ituri où les communautés locales annoncent leur retour progressif dans leur village, notamment à Boulé. Cette décision intervient plus d'une semaine après les opérations menées par les FARDC contre la milice au CRP de Thomas Lubanga. Les populations s'engagent également à collaborer avec les services de sécurité pour la consolidation de la paix dans la zone. Ces résolutions sont issues d'une campagne de sensibilisation organisée récemment à Boulé et Fataki par le gouvernement provincial ainsi que la MONUSCO. Autoprécision avec vous, Isaac Meopé.
Selon la délégation conjointe du gouvernement provincial et de la MONUSCO, les récents affrontements entre les FARDC et la milice CRP ont renforcé des sentiments anti-FARDC et anti-MONUSCO au sein de certaines communautés. Cette situation a favorisé l'infiltration des miliciens dans les sites des déplacés, l'utilisation des civils comme boucliers humains et des déplacements massifs vers des zones reculées. Pour y faire face, des séances de sensibilisation ont été organisées du 17 au 19 décembre à Boulé et Fataki dans le but de restaurer la confiance entre les FARDC et les populations affectées et de renforcer la protection des civils. À l'issue de ces échanges, les communautés ont décidé de retourner dans leur village, de reprendre leurs activités et de collaborer avec les services de sécurité. Elles ont toutefois recommandé le respect des droits humains par les FARDC, le renforcement de la relation civilo-militaire, l'intensification des patrouilles mixtes FARDC-UPDF-MONUSCO et l'ouverture d'un dialogue pour une cohabitation pacifique, mais aussi d'éviter l'assimilation systématique des jeunes aux groupes armés CRP et Codeco et l'érection des barrières des tracasseries des populations locales. Environ une centaine de personnes, dont des autorités coutumières Lindou et Hema, des acteurs de la société civile et des représentants des déplacés des cités de Loda et Djaïba, ont pris part à ces séances. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
l'insécurité autour des sites miniers et la prise en charge des militaires engagés au front dans l'est du pays. Les deux questions ont été au centre des auditions des ministres de Mines et des Finances jeudi à la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Compte rendu avec vous, Kassam Zati.
Le ministre des Mines a ouvert la série d'auditions de la journée devant la Commission Défense et Sécurité. Les élus nationaux ont essentiellement questionné Louis Watum Kabamba sur la sécurisation des sites miniers à l'échelle nationale, un sujet jugé sensible, plusieurs députés estimant que l'exploitation illégale des minerais constitue l'une des causes majeures de l'insécurité persistante. Face aux nombreuses préoccupations soulevées, le ministre des Mines a sollicité un report de 48 heures afin de mieux préparer ses éléments de réponse. La commission a ensuite auditionné le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likoundé, sur la régularité du paiement de la prime spéciale destinée aux militaires dans un contexte marqué par le regain des violences dans l'est du pays, notamment au nord Kivu et au sud Kivu, à la suite de l'activisme de la rébellion AFC M23 soutenue par l'armée rwandaise. Les conclusions de ces échanges sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, ainsi que celui de la Défense ont déjà été entendus dans le cadre de cet exercice parlementaire.
Les activités de lutte anti-érosive amenées en 2026 dans la ville de Kananga au Kasaï Central sont déjà planifiées. Cela s'est fait au cours de la 4e session du comité de pilotage provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, tenu sur place jeudi. Ce projet du gouvernement central est financé annuellement par la Banque mondiale à hauteur de 57 millions de dollars américains. André Katende Ngalamouloumé revient sur ces travaux et les résolutions prises.
Placé sous le thème « Développement urbain résilient, cap vers des solutions durables pour la protection de la ville de Kananga », la session a réuni les autorités provinciales, les services techniques de l'État, les partenaires du projet ainsi que des représentants de la société civile. À l'issue des travaux, plusieurs décisions ont été prises pour assurer la réussite du projet. Parmi elles, la réalisation d'études approfondies adaptées à chaque avenue et l'accélération de la mise en place des comités de gestion de plaintes sur tous les sites. Les participants ont également recommandé l'implication des ONG locales dans la sensibilisation communautaire, l'harmonisation des travaux avec la SNEL et la Régie des eaux afin d'éviter les coupures d'eau et d'électricité, ainsi que la collaboration avec la mairie pour l'indemnisation de personnes affectées par le travaux. Enfin, le caractère urgent du projet a été rappelé avec la priorité accordée à la construction des ouvrages de drainage et à la collaboration étroite avec les services techniques de l'État pour une mise en œuvre efficace. Kananga, André Katindengalamouloumé, Radio Okapi.
Merci André. Le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane et forêts dégradées, PSDF, dresse un bilan positif de ses actions menées en 3 ans. Son coordonnateur affirme avoir transplanté 6800 hectares sur les 7477 de cultures pérennes prévues entre juin 2022 et le mois de décembre en cours. Willy Imakedi a livré ses chiffres lors de la 5e réunion du comité de pilotage COPIL tenue vendredi à Kinshasa. Blaise Dongalamayanda nous explique en détail ce projet ainsi que ce bilan de 3 ans de sa mise en œuvre.
Ce projet mené dans les provinces de la Tchopo et du Kwilu vise à soutenir les activités paysannes, à lutter contre la déforestation et à réduire la pauvreté. Son coordonnateur s'est réjoui d'avoir réalisé plus de 90% des assignations avec la transplantation d'au moins 6800 hectares de cultures pérennes en l'espace de 3 ans et demi. Il assure également que le PSDF va désormais transplanter plus de 12 000 hectares de cultures d'ici fin 2027 grâce à l'appui financier additionnel de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI. Willy Makiadi.
Fonared CAFI est venu nous communiquer par rapport au financement additionnel qu'il nous a accordé, Fonared, de 8 millions de dollars pour permettre au PSFD d'atteindre 12 000 hectares au lieu de 7 477 hectares. On va le faire jusqu'en fin 2027.
Le directeur de l'Agence française de développement, que la mission finale de ce projet est de détourner les agriculteurs de la dégradation des forêts et de les orienter vers les productions agricoles pérennes. De son côté, le ministre d'État en charge de l'agriculture reconnaît que ce projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. Le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane et de forêts dégradées est le premier projet en RDC à utiliser les mécanismes de paiement des services environnementaux.
Au sommet au Congo central, le service public agricole de la province vient d'être doté de motos par le Programme national de développement agricole, PNDA, ainsi pour faciliter la mobilité des agents sur le terrain et renforcer l'encadrement des producteurs agricoles dans la province. C'est le ministre provincial de l'Intérieur qui les a réceptionnés vendredi au nom du gouverneur. Jacques Kiazoloa salue ce soutien apporté par la Banque mondiale et d'autres partenaires techniques du programme pour le développement agricole de la province. Nana Purich Mambo nous en dit un peu plus sur cet apport.
Ces 29 motos sont destinées aux inspecteurs territoriaux et provinciaux du développement rural, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, ainsi qu'à des structures spécialisées telles que l'OVDA, INERA et CESASEM. Ces agents connaissaient de sérieuses difficultés pour se mouvoir dans le cadre de l'inspection des différents projets agricoles et de l'encadrement des producteurs locaux. Ces engins sont répartis de la manière suivante. 4 motos pour Lukula, 5 pour Sekebanza, Luozi 4, Songololo 3, Tchela 3 et Matadi 6. À travers cette initiative, le Programme national de développement agricole dit confirmer son rôle de levier stratégique pour améliorer la productivité agricole, l'accès au marché et la supervision des activités agricoles, contribuant ainsi au développement durable de la province du Congo central. Emmanuel Kasongo Yakusu, expert national en gestion des risques et représentant le coordonnateur national du PNDA qui a remis ses motos, a souligné que ces équipements sont indispensables pour l'inspection, la supervision et l'appui technique sur les terrains. Il appelle à une utilisation professionnelle et responsable car l'objectif est d'améliorer les conditions de travail et l'efficacité des agents. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Prenons qu'il faut, les forces armées de la République démocratique du Congo vont bientôt bénéficier d'une station radio dans la ville de Beni. Les travaux de construction du site ouvrage qui rentre dans le cadre des projets Impact Rapide de la MONUSCO ont été lancés samedi dans l'enceinte du camp général Chico à Mambango. L'objectif est de doter l'armée d'un outil de communication pour lutter contre la désinformation et les rumeurs, mais aussi renforcer la relation entre civils et militaires dans la région. Autre précision avec vous, Marc Marofimbo.
Il s'agit d'une radio que la MONUSCO, à travers sa section des communications stratégiques et de l'information publique, va construire et équiper. Elle va permettre à l'armée de mieux informer la population de ses actions, a dit le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 Grand Nord, le lieutenant Marc Elongo.
Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires majeurs, il est indispensable de disposer d'un outil fiable pour informer à temps réel, éduquer et sensibiliser la population dans la province du Nord Kivu et ses environs.
La lutte contre la désinformation, en effet, et les fausses rumeurs, c'est aussi l'autre objectif recherché par la MONUSCO à travers cet appui, surtout dans une zone aussi sensible que le Grand Nord Kivu, a dit le représentant du chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, Michael Nolé.
Il y a souvent des problèmes en termes de communication et nous croyons fortement qu'à travers la construction de cette radio aujourd'hui, nous allons pouvoir faire ce rapprochement civilo-militaire, surtout ici au Grand Nord.
D'un coût d'environ 50 000 $ américains, cette radio va bénéficier aux populations de l'espace Grand Nord grâce à une information sûre venant de la source, c'est qui a manqué depuis plus de 3 ans au FRDC avec la réduction au silence de son ancienne radio. Avec cet argent, la MONUSCO va construire un local équipé avec une salle à émetteurs, une cabine technique, une salle de rédaction pour les journalistes, ainsi qu'une salle de réception. Cette station sera alimentée par l'énergie solaire suppléée par un générateur de secours. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Pendant du début hier au Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes, 24 équipes civiles hautes, 9 stades accueillent ce tournoi. Hier, le Maroc, pays organisateur, a eu raison des Comores par 2-0. L'équipe de sport y reviendra en détail après ce journal. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont officiellement mis en place hier dimanche leurs forces unifiées. Celles-ci regroupent les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est le président du Mali, le général Assimi Goïta, qui est aussi président de la Confédération des 3 pays sahéliens, qui a dirigé la cérémonie solennelle de lancement à Bamako. Et pour lui, le nouveau commandement de cette force devra anticiper sur le nouveau mode opératoire de groupes armés terroristes, mais aussi continuer le combat pour la sécurisation de l'espace du Sahel.
L'invité.
Ndeye Okadilo est notre invité. Elle est porte-parole de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo MONUSCO. Elle revient sur la résolution 2008 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vient de prolonger pour un an le mandat de la MONUSCO. Elle s'entretient avec Jean Gandou.
Ndeye Okadilo, bonjour.
Bonjour Jean.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient à travers la résolution 2808 de prolonger d'un an le mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que cette nouvelle résolution apporte de nouveau par rapport à celle de l'année dernière?
La résolution 2808-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies apporte plusieurs éléments significatifs et mesures de renforcement pour la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. La nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 20 décembre 2026. Contrairement au plan précédent, elle prend acte d'une pause dans le désengagement de la MONUSCO en raison de l'évolution de la situation sécuritaire, notamment au Sud Kivu. Elle intègre de nouveaux cadres diplomatiques tels que l'accord de paix de Washington signé en juin 2025 et le cadre de paix de Doha novembre 2025 et autorise la MONUSCO à soutenir un cessez-le-feu permanent via un mécanisme de suivi et de vérification COVM. Enfin, elle exprime une inquiétude inédite face à l'utilisation de technologies sophistiquées par les groupes armés comme des missiles sol-air et des drones suicides.
Quelles mesures la résolution prévoit-elle pour lutter contre les violations des droits de l'homme et l'impunité, notamment ce qui concerne les violences sexuelles et les crimes contre les enfants?
Pour combattre l'impunité, la résolution 2808-2025 prévoit les mesures suivantes. En termes de redevabilité et de justice, elle exhorte le gouvernement congolais à traduire en justice les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tout en renforçant la coopération avec la Cour pénale internationale. Dans le cadre du vetting, du filtrage, elle préconise la mise en œuvre d'un système de filtrage systématique pour exclure des forces de défense et de sécurité toute personne soupçonnée de violation des droits de l'homme. Dans le domaine des violences sexuelles, la résolution 2808 demande l'accélération des arrangements de surveillance et de rapports sur les violences sexuelles et exhorte le gouvernement congolais à financer les plans d'action pour les réparations aux survivants. Dans le cadre de la protection de l'enfance, elle exige la fin immédiate du recrutement d'enfants et demande que ceux-ci ne soient pas détenus pour leur association avec des groupes armés, mais remis à des acteurs de la protection de l'enfance.
Comment cette nouvelle résolution aborde-t-elle les questions des groupes armés et même du M23 qui bénéficient du soutien du Rwanda tel que reconnu par la communauté internationale?
La résolution 2808 condamne fermement l'offensive du mouvement du 23 mars et de l'Alliance du fleuve Congo, mentionnant explicitement le soutien direct et la participation des forces de défense rwandaises RDF. Elle exige le retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire congolais et la cessation de tout soutien au mouvement du 23 mars. La résolution 2808-2025 demande à la MONUSCO de surveiller l'embargo sur les armes, notamment en signalant les mouvements de troupes et d'armes à la frontière Est, et dénonce l'usage de brouillage GPS dans les zones contrôlées par le mouvement du 23 mars et l'Alliance Fleuve Congo. La mission reste aussi autorisée à mener des opérations offensives ciblées via sa brigade d'intervention, la FIB, pour neutraliser les groupes armés.
Comment la MONUSCO entend-elle mettre en œuvre cette résolution quand on sait qu'elle a du mal à se mouvoir dans les parties qui sont sous occupation de la rébellion?
Pour opérer malgré les contraintes de mouvement que la MONUSCO vit dans les zones sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo au mouvement du 23 mars, la résolution autorise une posture robuste et ordonne le maintien d'un déploiement proactif, mobile et flexible, particulièrement dans les zones à haut risque. Elle préconise aussi l'usage des technologies de surveillance, des systèmes aériens sans pilote, les drones, afin de surveiller les violations de l'embargo et les mouvements des groupes armés. En ce qui concerne la liberté de mouvement, le Conseil exige la levée immédiate de toute entrave à la circulation de la MONUSCO et exprime son intention de sanctionner ceux qui planifient ou participent à des attaques contre les casques bleus.
Vous dites que la nouvelle mission de la MONUSCO a été renforcée. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que la MONUSCO aura besoin des troupes supplémentaires pour mener à bien cette nouvelle mission sur le terrain?
Pour ce qui est des troupes, la résolution ne mentionne pas l'ajout de troupes supplémentaires au-delà des plafonds déjà établis. Elle fixe le plafond autorisé à 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major et environ 1 700 membres du personnel de police. L'accent ici est mis sur l'adéquation des ressources existantes et sur le fait que les contingents doivent être disposés, capables et équipés afin de remplir leur mission dans un environnement de menace asymétrique.
Est-ce que nous pouvons dire qu'à ce stade, le nouveau mandat incarné caractère coercitif vis-à-vis de ceux qui pourraient gêner la bonne exécution de la mission de la MONUSCO sur le terrain.
Le nouveau mandat possède effectivement un caractère coercitif significatif afin d'assurer son exécution. Il ordonne le recours à la force agissant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Le Conseil de sécurité autorise la MONUSCO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Et il ordonne aussi les offensives ciblées. La brigade d'intervention de la force est spécifiquement autorisée à mener des opérations offensives ciblées de manière unilatérale ou conjointe afin de neutraliser les groupes armés. Le Conseil exprime son intention d'imposer des sanctions contre les individus ou entités qui planifient, dirigent ou participent à des attaques contre les casques bleus ou le personnel des Nations Unies. La résolution exige également la levée immédiate de toute contrainte à la liberté de mouvement de la MONUSCO.
Je rappelle que vous êtes porte-parole de la MONUSCO et merci de vous être prêté à nos questions.
Merci Jean.
Dekadilo qui a expliqué l'apport de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jules Mister Bilanda, édition parvenue chez vous, grâce à l'apport technique de Billy Landry et Obetou. Excellente semaine à vous tous.